Segal, le midi, avec Myriam Segal et Jeff Blanchette.
93. Jeff, on a eu quelques autres commentaires sur l'histoire des balles. Secondaire 5, mes amis m'ont tellement écœuré avec le bal que je suis resté chez moi. Le lendemain, phase d'enterrement. Elles m'ont dit que mon idée de partir en voyage était probablement la bonne.
Ah, OK.
Bal, veston blanc et pantalon vert lime. C'était pas une bonne idée. Non, j'ai un fils qui m'avait demandé comme ça un costume blanc. J'ai dit non, oui. Non, oui.
Mais le veston blanc, pantalon vert lime, on veut des photos de ça, là. Studio à commercial FM93.com, je veux voir ça. Ça doit être magnifique.
Et David a quand même un argument intéressant en faveur des balles. Il dit que lui, il a fini son secondaire 5 à l'éducation aux adultes.
Okay.
Puis que c'est un de ses grands regrets de ne pas avoir eu les festivités, mais juste une remise de diplôme plate avec des vieux louches. Mais à cette heure, à l'éducation aux adultes, là, c'est plus des vieux louches, c'est tous des jeunes.
C'est une collation des grades, genre.
C'est ça. OK, il y a eu une photo publiée il y a quelques jours, puis moi, au début, je pensais que c'était fake news. Je pensais que c'était une fausse photo. Une filée d'alpinistes sur la crête d'une montagne enneigée, grimpant tous à la queue leu-leu vers le sommet. Il paraît que c'était la file d'attente pour arriver au sommet de l'Everest.
Faut prendre un numéro, comme à la SAC. On sert le A28.
Même à la SAC, on sert plus. Ah oui, à la SAC, tu veux dire la SAC.
Oui, la SAC.
Ah, OK. Il faut bêler comme du monde quand tu parles de SAC. OK. Je me suis dit, c'est pas vrai, ça se peut pas. C'est quelqu'un qui a fait un montage. C'est vrai. Même qu'il y a eu un 11e mort au même endroit. Puis là, je me dis, c'est quoi l'idée? Comment ça se fait qu'on est rendu avec un embouteillage de monte pour monter sur le sommet de l'Everest? On a au téléphone un alpiniste, Gabriel Philippi, qui en arrive de l'Everest. Bonjour, M. Philippi.
Bonjour, Myriam.
Dites-moi donc, est-ce que c'est vrai que ça fait la file d'attente à 300 personnes pour grimper en haut?
Ben, je pense que vous avez vu la photo qui fait le tour du monde, que vous mentionnez, puis c'est arrivé cette année. Malheureusement, parce que cette année, il y avait un nombre record de permis qui a été émis par le gouvernement. On parle de 378, si je me souviens bien. À chaque permis, on calcule environ un Sherpa par personne. Donc, on est rendu à 750 personnes. Et la montagne voisine, le Lhotse, on utilise le même camp de base, le même camp 1, 2 et 3. Et là, il y avait 92 permis. Donc, un autre 250 personnes, 250 personnes. Donc, on joue autour de 1000 cette année. Les gens se sont pointés sur la même fenêtre de beau temps, qui était très courte de 3 jours. Et on s'est retrouvé justement avec 2 journées, avec des fils, comme vous voyez sur la photo. Moi, je trouve ça malheureux parce que c'est 2 mois d'expédition. Il y avait possibilité de faire autre chose, de faire autrement. Moi, je l'ai fait autrement. Quand j'ai su qu'il y avait autant de gens, j'ai décidé tout simplement de devancer mon sommet. On a travaillé pour faire le sommet une semaine avant les gens. On a regardé la météo. On a vu qu'il y avait une belle opportunité le 15 et le 16. Et c'est là que je me suis faufilé le 15. Et si vous regardez ma photo, j'ai mis sur Instagram, sur ma page d'athlète Facebook, si vous regardez sur mes réseaux sociaux, vous allez voir la même photo, sauf que vous devez agrandir ma photo pour voir 3-4 personnes à un certain moment donné qui sont sur la montée.
Monsieur Philippe, est-ce qu'il y a plusieurs chemins pour se rendre jusqu'au sommet?
La montagne d'Everest a plusieurs options, plusieurs chemins, sauf lorsqu'on a des clients, les expéditions commerciales empruntent tous le même chemin. On appelle la voie normale. Et c'est vraiment cette voie-là, sur le côté népalais, que tout le monde emprunte. Donc, il y a un seul chemin.
Okay.
Il y a un seul endroit où ce qu'on monte et on redescend par le même chemin. Donc, lorsque vous redescendez, vous croisez les gens qui montent.
OK. Et là, vous dites qu'il y a des permis qui sont délivrés. Ça veut dire, est-ce qu'il y a une liste d'attente pour accéder aux prochaines expéditions pour 2020-2021, par exemple? Comment ça fonctionne, l'obtention de ce permis-là?
Ben, c'est pas compliqué, Jeff. Tu veux y aller l'année prochaine, tu fais une demande soit auprès du gouvernement, tu remplis la demande pour un permis d'Everest, ou tu passes par un fournisseur de services Moi, je le fais maintenant là, depuis quelques années, où j'amène justement des clients comme ça là, sur l'adresse. Donc, tu passes par un fournisseur qui, lui, va s'occuper aussi de la paperasse administrative. Okay. Et un des problèmes qu'on a, c'est que le gouvernement ne demande aucune qualification. Donc, n'importe qui peut aller sur l'adresse présentement, en autant que les moyens de se payer ce fameux permis-là, puis de se payer une expédition sur l'adresse.
Oui, mais...
Le gouvernement ne fait aucune recherche et même pour les agences népalaises qui pullulent présentement, c'est payant d'amener des clients sur l'adresse. Alors, on s'invente du jour au lendemain. On n'a pas de boulot, ben on décide qu'on va amener des gens. Puis même là, le gouvernement ne réglemente pas les agences. N'importe qui peut être une agence sur Népal. C'est un autre danger qu'on voit.
Mais est-ce que les gens qui meurent en montant l'Everest, ils meurent de quoi?
Les gens meurent de fatigue. Les gens meurent d'édème pulmonaire, d'édème cérébral, donc de l'eau qui rentre dans les poumons ou dans les cerveaux parce qu'ils sont mal acclimatés. L'acclimatation a mal été faite. Et à ce moment-là, ben c'est le couvillette. Après le mal aigu des montagnes, c'est les deux causes. Donc, les gens ont un mal aigu des montagnes, ce qui est pas guéri. On se retrouve avec un édème pulmonaire ou un édème cérébral et là, on tombe dans le coma et on décède. Il y a des gens aussi qu'on voit, cette année, c'est arrivé aussi, il y a des problèmes cardiaques qui vont arriver et qui sont pas connus en basse altitude. Okay. Les gens ont pas fait d'électrocardiogramme et on voit beaucoup des gens en haut de 45 ans qui vont se retrouver avec un arrêt cardiaque subi.
Est-ce que quelqu'un qui est en bonne forme physique et qui a l'argent pour se payer le permis de l'expédition peut réussir à atteindre le sommet sans avoir de formation en alpinisme?
Si bien entouré, bien guidé, bien dirigé, oui, c'est possible. Moi, j'ai amené un client l'année dernière qui avait une personne du Saguenay qui avait jamais fait de montagne de sa vie. On l'a préparé, il était en forme physiquement et il a atteint le sommet de l'Everest en suivant la stratégie qu'on avait, suivant le plan qu'on avait et ça s'est bien passé. Faut comprendre là, que cette fameuse photo-là a été prise le 21, 22 ou 23 mai dernier dans cette petite fenêtre-là. Mais comme je vous dis, si votre stratégie est bonne, si c'est bien planifié, si vous avez bien regardé la météo, nous, on se retrouve avec personne. Alors, comment vous allez être géré sur la montagne? Quelle décision va être prise par l'organisation qui vous amène? C'est important là, à prendre en considération.
Est-ce qu'il y a vraiment des gens qui y vont sans aucune préparation? Moi, j'ai un souvenir, je suis monté à 3800 mètres d'altitude, j'ai eu des vertiges, de la nausée, je me suis dit, jamais je vais faire un sommet. Mais l'Everest, là, c'est 5 kilomètres verticaux plus haut, là.
Oui, moi, je suis entièrement d'accord avec vous. Il y a des gens qui sont pas préparés, il y a des gens qui ont de l'argent, ils vont s'entraîner un petit peu chez eux, faire quelque chose. Mais si, justement, le processus n'est pas suivi, de cette personne-là, puis la personne se pointe à Katmandou, puis là, c'est le temps de commencer l'expédition. Cette personne n'a jamais eu de formation, quoi que ce soit. Moi, j'ai vu des gens qui savaient pas comment mettre des crampons, ils savaient pas qu'il y avait un gauche et un droit. Donc oui, c'est la réalité, parce que les gens se disent, moi, je paye un gros montant d'argent, puis ils vont s'occuper de moi. Les gens sont inconscients. Il y a une incompétence chez les gens. On s'entend, là, c'est pas des grimpeurs, c'est des clients. Certains ont une compétence en tant que grimpeur parce qu'ils sont allés grimper autre chose. C'est beaucoup plus facile. Moi, j'en ai des clients comme ça. Puis ces gens-là, on le sait, ils sont allés suivre de la formation. Ils sont allés. Mon ami qui est venu avec moi cette année, il est allé faire d'autres montagnes avant. Il a suivi des cours de formation. Il est vraiment facile à voir. Il est venu avec moi déjà deux autres fois en altitude. Il savait ce que c'était. Mais il y a des gens que c'est 0-0. Là, on met l'argent sur la table puis on veut se payer l'adresse.
OK. Puis on peut monter là sans piolet, sans la force de nos bras, comme un trekking. Moi, je pensais tout le temps, mettons, le Kilimandjaro, tu peux monter là avec tes deux jambes, puis tu montes. L'Everest, il n'y a pas de segment où il faut absolument que tu t'accroches dans une falaise avec des piolets. Là.
Non, toi, Jeff, là, sur l'Everest, parce que c'est rendu une expédition, c'est une montagne très commerciale. Donc, pour assurer le plus de sécurité des clients, il y a des cordes fixes, des cordes d'escalade, qui sont installées dès le camp de base. Dès que tu quittes le camp de base, les cordes sont installées jusqu'au sommet. Donc, tu vas toujours être sur une corde. Si tu suis les règles, tu vas toujours être accroché avec deux vies, comme on appelle. Uh-huh. Donc, quand tu arrives à un ancrage, parce que la corde termine sur l'autre corde qui débute, ben, tu vas déplacer un de tes ancrages sur la nouvelle corde, mais tu vas toujours être en sécurité sur la deuxième. Donc, si tu suis les règles, ça va se faire de cette façon-là jusqu'au sommet. Maintenant, quand tu as des grimpeurs plus expérimentés, comme certains de mes clients, comme moi, certaines portions sur la montagne, on n'a pas besoin de se servir des cordes parce qu'on est à l'aise à travailler. Mais il n'y a aucun aspect d'escalade technique maintenant. Ils ont tous été enlevés par justement l'installation des cordes.
Est-ce que vous auriez pas avantage à faire d'autres montagnes? Le K2, il est pas très loin, semble-t-il, puis il est presque aussi haut. Est-ce que vous auriez pas intérêt, plutôt que de faire la file d'attente sur une autoroute?
Le problème qu'on voit, moi, c'est sûr, moi, je vais me promener ailleurs. Lorsque je vais sur l'Everest, quelqu'un me dit ce matin, pourquoi t'es allé trois fois? Une fois, c'était pas suffisant. Non, parce que moi, maintenant, j'en fais une partie de mon métier à guider les gens, de un. Oui. Mais de deux aussi, j'ai fait des ascensions sur l'Everest pour des causes. J'ai amassé de l'argent pour des causes. Fondation du Canadien de Montréal, la fibrose critique. Donc, il y avait une raison en arrière. Puis je crois que c'est ce qui est important. C'est que moi, quand je fais une montagne, je pense que les gens doivent se poser la même question. Pour quelle raison on le fait? Si on le fait pour avoir une photo dans notre bureau d'avocat ou dans notre entreprise, on le fait pas pour les bonnes raisons. C'est là qu'il y a un danger. On veut absolument être au sommet pour avoir cette photo-là. On oublie l'aspect sécurité, on oublie tous les dangers. Et l'Everest, c'est la plus haute au monde. Il y a des dangers, on le voit chaque année, ça décède. Oui, il y a d'autres montagnes intéressantes à faire. Moi, c'est certain, j'ai été sur d'autres montagnes. C'est sûr que là, à ce moment-là, les clients sur l'Everest, tu les vois pas sur le K2. Là, c'est technique, c'est plus difficile. Mais les gens associent l'Everest pour toutes sortes de raisons. C'est la plus haute. Il y a quelque chose de mythique. On le voit à chaque année. C'est des films, c'est des livres, c'est des histoires, c'est des conférences qu'on voit, puis on est attiré par ce haut sommet-là. On veut pas aller... Si vous dites à votre voisin que vous êtes allé au Kachatonga, il n'aura aucune idée où vous êtes allé. Si vous lui dites que je suis allé à l'Everest, là, il va savoir, vous allez savoir de quoi il parle.
Ouais, c'est ça. C'est l'attrait de ce qui est le plus connu puis le plus haut. Est-ce que c'est vrai que c'est un dépotoir?
Ça, c'est une autre bonne question que vous me posez. Parce que ça a souvent été dit que c'était le plus grand dépotoir au monde. Je dois vous dire qu'on a un permis. Lorsqu'on fait une expédition, on a un permis est à 4 000 ou 5 000 US sur l'environnement. Donc, on doit redescendre nos déchets. Okay. Et si on redescend pas nos déchets, on perd ce dépôt-là. On est dans un parc national, c'est bien entretenu, les sentiers qui se rendent au camp de base sont entretenus. Il y a même maintenant des boîtes où vous pouvez mettre vos recyclages de vitres, de métal, de papier, comme on voit ici chez nous au Québec. Okay. Sur la montagne, le plus gros problème est au camp 4, qu'on voit présentement, le dernier camp, 8000 mètres, où là, il y a des gens qui ont eu un laisser-aller avec les déchets. Et maintenant, il y a des photos qui sont prises, il y a des vidéos qui sont prises, et ces gens-là sont pénalisés. Et nous, on va même jusqu'à demander une pénalité à vie, de pas représenter une compagnie qui amène des clients qui ne redescendent pas ces trucs, on demande une pénalité à vie. On aimerait que le gouvernement bouge là-dessus. C'est un gouvernement qui ne bouge pas beaucoup, empoche les millions que ça coûte à chaque année aux gens pour se payer l'Everest, mais ne bouge pas beaucoup.
Ça coûte combien un permis pour grimper l'Everest?
Le seul permis, le bout de papier qui vous dit que vous avez le droit de quitter le camp de base pour monter en haut, c'est 11 000 US par personne.
Ouh!
Okay. Ça, c'est seulement le bout de papier. Ensuite de ça, il faut vous engager un fournisseur de services, Sherpa et tout ça. Donc, présentement, les expéditions, je vous dirais, entre 40 et 70 000 US présentement, que ça coûte. Les expéditions népalaises, beaucoup vont couper les prix, justement, comme je vous disais, ils connaissent absolument rien, ils veulent avoir de la clientèle, et là, c'est fait broche à foin. Et là, c'est combien vaut votre vie, là. Vous évaluez votre vie sur l'Internet à magasiner une montagne d'Everest. Bonne chance.
Merci bonne beaucoup, chance. M. Philippi, de nous avoir expliqué ça. On va mieux comprendre les images saisissantes qu'on voit.
Oui, parce que en même temps, je veux vous dire que si vous allez voir justement sur ma page Instagram, vous allez voir la même photo, vous allez voir, il n'y a pas de gens. Il y a des belles histoires sur l'Everest aussi. Il n'y a pas juste une journée ou deux journées où on voit ça. C'est dommage que ce soit comme ça, mais en même temps, il y a des belles histoires qui se passent à la montagne.
Merci beaucoup.
Merci à vous.
Merci.
Bonjour.
Gabriel Philippi est un alpiniste qui a fait l'Everest 3 fois, qui vient de nous expliquer ces étranges images qu'on a vues. Je te dis, moi, au début, j'y croyais pas pantoute.
Moi non plus. J'étais persuadé que c'était un montage.
Puis là, il y a une 11e personne qui est décédée. La plupart meurent effectivement d'embolie pulmonaire parce qu'ils sont pas acclimatés à l'altitude. Puis l'altitude, il paraît que tant que t'as pas essayé, tu sais pas si t'es bon en altitude ou pas.
Exact.
Moi, je sais que je suis monté à l'Aiguille du Midi, là, c'est par le téléphérique, là. Je suis redescendu à pied, par exemple. Mais monté par le téléphérique, là. Puis je suis arrivé en haut, étourdi, la nausée, mal au cœur. J'ai dû m'asseoir. J'avais l'impression que tout tournait autour de moi. Et j'ai compris que jamais j'irai plus haut que 4000 mètres.
Mais 11 décès, on trouve ça beaucoup, là. Il y a 521 permis délivrés cette année. Rajoute un Sherpa par tête, fait que ça fait à peu près 1000 personnes. 11 sur 1000, c'est 1%. T'as 99%
des chances.
Enlève
les Sherpas, ils meurent pas d'embolie pulmonaire. Eux autres sont habitués.
OK, bien 11 sur 521, c'est 2%. T'as 98% des chances de commencer ton ascension puis de te rendre en haut ou de pas mourir dans la montagne. Pas si bien.
Ben, je trouve ça beaucoup quand même. Mais tu comprends-tu que le gouvernement népalais, c'est le pactole, là? À 40 000 $ le voyage? C'est sûr qu'ils doivent avoir un peu de misère à dire non.